À voix nue, Sylvie Tanet.
Laurent Meuvignier, écrivain.
Deuxième épisode, un auteur minuit. Bonjour Laurent Meuvignier.
Bonjour.
Alors hier nous avons parlé des années de l'enfance, de votre famille, de la Touraine où vous avez grandi. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un peu de vos années de formation et de vos débuts en littérature. Donc je sais qu'après le collège vous avez été orienté en BEP comptabilité. Faudrait m'expliquer pourquoi, parce que vous m'avez dit hier qu'à partir de 8 ans vous avez écrit, vous aviez déjà écrit plusieurs romans. Pourquoi après le collège on vous oriente en BEP comptabilité ?
Alors, on m'oriente en BEP comptabilité parce que il se trouve qu'à partir de la quatrième, mes parents étaient vraiment en train de se séparer, mais c'était très violent et très, et en troisième, j'ai complètement décroché, au collège. Et tout ça s'est très mal passé puisque ça s'est terminé par le suicide de mon père, en fait. Et du coup, moi, ça m'a, j'ai vraiment explosé en vol, hein. Et en gros, on m'a laissé comme alternative de redoubler ma troisième ou d'aller au lycée professionnel qui était à 100 mètres de chez moi pour faire un BEP comptabilité. Et j'avais pas envie de redoubler parce que c'est vrai que dans le souvenir que j'en ai, l'idée était vraiment pas possible pour moi. Je le vivais comme une humiliation parce que comme on m'avait un peu toujours vendu l'idée que j'étais un bon élève, l'idée d'un seul coup d'être recalé. Alors là, vraiment, j'avais l'impression d'une espèce de fatalité qui s'abattait. C'était atroce, quoi. Et puis, il y avait une jeune fille dont j'étais un petit peu amoureux qui allait en BEP comptabilité. Je me suis dit, oui, pourquoi pas? Tiens, finalement. Donc j'ai fait un an de BEP comptabilité, ouais. Et on m'a appelé très vite l'expert comptable, c'était une catastrophe totale, mais pas complètement, puisque le mardi et le vendredi, j'avais une heure de dactylo, avec une dame qui était le sosie de Marguerite Duras, et qui m'a appris à taper à la machine, sur les vieilles machines en fer, en ferraille très très dure, où on mettait des pastilles sur les pour apprendre le clavier par cœur, etc. Et donc cette année-là m'a vraiment servi à quelque chose parce que depuis j'ai pas de problème pour écrire plus vite que mon ombre à la machine, quoi.
Mais quand même, dans les années de collège, Laurent Meuvignier, il n'y a pas eu un prof ou une prof de français pour repérer ce petit garçon qui écrivait, qui s'intéressait au langage. Vous savez, ces belles histoires qu'on nous raconte souvent sur le prof repère le futur écrivain, ça s'est pas passé?
Si, un petit peu, si, ma prof de français, elle s'appelait Madame Philippe, Monsieur Lebier, qui était le prof d'art plastique, et Monsieur Calange, qui était le prof d'histoire géo. C'est les trois profs dont je me souviens vraiment parce qu'ils ont compté. Mais c'est vrai que les dernières années, j'étais vraiment totalement. Mais ils le savaient d'ailleurs. Ils savaient que ça. Tout le monde savait que ça n'allait pas très bien dans ma famille. Et bon, voilà. Après, je sais pas aujourd'hui comment ces choses-là se passeraient. J'avais l'impression qu'à l'époque. Puis même, personne chez moi n'avait eu l'idée même d'aller en parler avec le CPE, c'était comme ça, quoi. Une fois encore.
C'était comme ça, ouais.
C'était comme ça. Puis vous savez, c'est toujours pareil, c'est que moi je venais d'un milieu où de toute façon on n'allait pas au lycée. Imaginez, sur les 5 enfants, il y a ma sœur aînée qui est allée au lycée. Sur les 5, il y en a une seule qui a le bac. Donc c'était plutôt, on fait un BEP, ou même, c'est déjà pas mal un BEP, c'est plutôt un CAP, voire en apprenti directement. Et puis moi, ma mère, elle aurait été très heureuse que je sois guichetier au Crédit Agricole du coin, c'était son ambition pour moi. Et moi, je le sentais moyen comme idée, mais donc BEP, comptabilité, et moi, très vite, ça allait pas du tout être possible, quoi. Ou alors si, ça allait être possible, mais vraiment, à ce moment-là, je me disais, mais si je fais ça, je vais mourir, en fait. Mais je vais mourir, je vais m'éteindre totalement, et puis je sais pas, je vais, quelque chose va mourir, quoi. Mais vraiment avec une conscience de ça très, alors là, pour le coup, pas énervé ni rien, c'est juste un constat. Si je fais ce à quoi on m'assigne là, je vais disparaître, quoi. tranquillement. Et c'est là que j'ai appris qu'on n'avait pas besoin du bac à l'époque pour entrer aux Beaux-Arts. Et là, je me suis dit, ben, les Beaux-Arts, c'est la solution pour...
Oui, mais justement, ça, j'ai jamais compris. Parce que vous êtes en BEP comptabilité et vous passez le concours pour entrer aux Beaux-Arts à Tours. Comment ça se passe? Comment vous êtes au courant qu'on peut passer ce concours? Comment vous en entendez parler?
Je me souviens plus si c'était justement le prof d'art plastique, Monsieur Lebier, qui en avait parlé. C'est possible. C'était une idée que j'avais déjà en tête, peut-être en quatrième ou en troisième. Peut-être que j'en avais déjà entendu parler. Et c'est marrant parce qu'effectivement, je ne sais plus trop comment ça arrive. Mais comme à l'époque, le bac n'était pas obligatoire, c'était un concours que j'ai passé. Mais il y avait un âge minimum qui était 17 ans. Et j'ai passé le concours en juin, j'avais encore 16 ans. Je ne l'ai pas eu, j'étais ajourné et on m'a demandé de repasser en septembre. Et là, j'avais vraiment une pleine conscience que si je ne l'avais pas, j'étais vraiment très très mal barré en fait. Et puis en septembre, je l'ai eu. Et donc, je suis arrivé aux Beaux-Arts. Mais je suis arrivé aux Beaux-Arts en même temps, moi j'étais totalement... moi, je sortais de mon village de 4000 habitants, là. J'avais jamais vu un escalier mécanique. Puis après, peut-être j'étais complètement dans les choux, peut-être, dans ma tête aussi, mais je savais même pas qu'il fallait payer pour prendre le bus, enfin des choses folles, quoi. Aujourd'hui, ça paraît dément, quoi, mais je savais rien. Et pour le coup, je suis arrivé avec des étudiants qui avaient peut-être pas tous le bac, mais qui quand même étaient allés au lycée. Et j'étais un des plus jeunes, en fait. Moi, je venais d'avoir vraiment sur la limite, je venais d'avoir 17 ans. Ils avaient tous au moins 18, 19 ans. Et puis, comme c'était un espace ouvert à des gens qui n'avaient pas le bac, il y avait parfois des gens qui étaient beaucoup plus âgés ou qui venaient de milieux très différents. Il y avait des gens qui sortaient de prison, il y avait des gens qui sortaient d'hôpital psychiatrique, il y avait des gens. C'était un foutoir pas possible, mais magnifique.
Et qu'est-ce que vous faites aux Beaux-Arts ?
Il y avait des cours de dessin, peinture, etc. Mais un rapport, du coup, à une modernité dont j'avais jamais entendu parler, dont je connaissais rien. Et au bout de 3 mois, on nous annonce la venue d'un peintre, mais qui est aussi auteur, et puis qui est auteur de théâtre, mais qui est surtout auteur de théâtre, etc. Et on voit un homme arriver. Il y avait une télé, il y avait des vidéos, des projections de ce qu'il avait fait, de ses peintures, etc. Bon, moi, je ne connaissais pas le... Et puis, il sort un livre, il remonte ses manches, et puis il commence à lire. Et l'homme en question, c'était Novarina. Et là, j'entends un truc, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Mais ça m'a totalement renversé, quoi. Parce que, d'un seul coup, j'entends une langue, une voix... Un monde, un univers, quelque chose de... Je comprends rien, mais je comprends rien, mais j'entends tout. Mais vraiment, cette sensation d'entendre quelque chose d'inouï, quoi. Et puis, quelque chose qui passe par le corps. Quelque chose qui... Je vois ce bonhomme avec ses manches remontées, et c'est idiot, mais je me souviens vraiment de l'image du gars qui remonte ses manches, parce que pour moi, c'est un geste d'ouvrier. C'est un geste très fort pour moi. Je l'associe à plein de choses, en fait. C'est vraiment un geste de l'enfance. C'est un geste que je vois. Donc, c'est pas rien pour moi. D'un seul coup, c'est vraiment relié à quelque chose de très concret. Et d'un seul coup, je me dis, ah, là, la langue n'est pas cet instrument de pouvoir surplombant ou autre. Là, d'un seul coup, c'est un matériau, c'est une matière qu'on façonne. Vraiment au sens ouvrier du terme, quoi. Donc ça me parle beaucoup. Donc là, c'est un seul coup, ça me fait des connexions avec des choses qui me touchent. Et d'un seul coup, c'est plus en opposition. C'est plus l'un contre l'autre. C'est plus cette idée qu'on m'avait un peu imposée, inculquée, qui était de dire il faut être bon en français pour trahir le milieu d'où on vient, en fait. Pour s'en échapper. Là, d'un seul coup, ce que je ressens avec ça, avec toutes les expériences, il y a eu Novarina, mais il y a eu d'autres expériences après, d'un seul coup, l'impression qu'au contraire, c'était que le monde intellectuel et le monde matériel, le monde du corps, ne s'opposaient pas, et que c'était justement par une forme qu'on allait aller chercher, que quelque chose pouvait commencer à vivre, et qu'au fond, tout ça se travaillait ensemble et pas l'un contre l'autre. Là, c'est vraiment la grande découverte pour moi. C'est dans les premières années de Beaux-Arts, c'est ça, quoi, de comprendre que les artistes sont des ont un rapport, la matière n'est pas seulement une chose intellectuelle ou autre, mais que ça ne travaille pas contre l'intellectuel, mais que ça travaille avec, en fait.
Ouais, et c'est cette rencontre avec Valère Novarina qui fait que vous remettez à écrire dans ces années-là ?
Alors oui, mais c'est venu de manière très sournoise, en fait, parce que je ne savais pas trop quoi faire en peinture et tout ça. Et puis, je me souviens d'un peintre qui s'appelle Rémy Zaugue. Je me souviens d'un tableau où il avait repris le déjeuner sur l'herbe, mais en fait, simplement en mettant les mots à la place des... là où il y avait de l'herbe, à la place des personnages, là où il y avait de l'herbe, il a écrit herbe, par exemple. Mais du coup, et ça faisait un tableau, l'espace était respecté, en fait, mais simplement avec des mots, donc c'était très conceptuel comme travail. Et puis j'ai retrouvé, à un moment, j'ai commencé à retrouver les bandes sur lesquelles j'avais écrit mes premiers textes, en fait. C'était des machines à écrire électriques, où il y avait des bandes, où on voyait les lettres, c'est des bandes noires avec vraiment les lettres du coup qui étaient claquées dessus, quoi. Et je les ai reprises et puis j'ai commencé à les arracher, à les couper, à les coller sur des morceaux de verre et donc à faire apparaître des mots, à faire apparaître des lettres, à faire apparaître toute une graphie comme ça de manière très très plastique, en fait. Et je savais pas pourquoi du tout je faisais ça. Et puis après j'ai commencé à reprendre tous mes premier texte, et puis je les ai recouverts de peinture, je les ai déchirés, je les ai zigouillés, mais avec une grande joie de destruction, un grand bonheur de destruction. Je mettais de l'espèce de brou de noix dessus, mais à mélanger avec de l'huile, avec des trucs noirs, un truc vraiment du sable, des trucs... je recouvrais tout, quoi, j'en faisais du papier mâché, je faisais des trucs avec ça, et je me suis vraiment battu pour que ça ne revienne pas à l'écriture. En fait, pour la transformer, matériellement, mais je veux dire vraiment littéralement, quoi. C'est-à-dire d'en faire de la bouillie, d'en faire littéralement de la bouillie, quoi. Et j'avais besoin de passer par un truc de destruction de tout ça, de destruction de. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire. Ça, c'était peut-être le côté. J'avais beaucoup d'intérêt, d'affection pour le dadaïsme et pour Fluxus ou pour des mouvements comme ça qui ont utilisé beaucoup le langage, quoi, et puis les surréalistes, et donc j'ai commencé à reprendre des textes, puis je m'intéressais du coup c'est là que j'ai découvert des auteurs comme Burroughs ou des choses comme ça, le cut-up, ces idées, et j'ai commencé à faire des collages. Alors je reprenais mes propres textes et puis je coupais dedans, je collais, mais j'écrivais pas un mot.
Ça a mis du temps à venir.
Ça a mis des années. Ouais.
Et comment ça revient alors ? Parce qu'il y a quand même ce premier roman.
Le premier roman, il revient pour le coup très longtemps après, parce que je suis sorti des Beaux-Arts en 91. Le premier roman, je l'ai écrit en 98. Il est publié, ouais, en 99, je l'ai écrit en 98. Mais parce que les Beaux-Arts, ils m'ont apporté ça, tout ce rapport à...
Ce rapport physique, ce rapport finalement, physique,
et puis, ça, ouais, puis cette capacité à me réapproprier les choses, mais ça avait quand même cette modernité-là, elle avait quand même un énorme problème, c'est que ça ne pouvait pas aller jusqu'au retour du roman, quoi, avec des personnages et tout ça, c'était trop ringard, trop réac, c'était pas possible, quoi. Il y avait quelque chose, donc tout ce cheminement. Quand je suis sorti des Beaux-Arts, par exemple, où là, j'ai commencé à me dire qu'en fait, je voulais écrire et qu'il fallait que je m'y colle. Là, j'ai commencé à lire pour le coup, tout ce qui était le contraire des Beaux-Arts, quoi. C'est-à-dire plus du tout des auteurs modernistes, Artaud et tout ça. J'ai mis de côté un peu tout ça et je me suis dit, tiens, je vais aller voir des romanciers un petit peu plus classiques, on va dire. Voire de droite et tout ça, type Mauriac, Julien Green et tout ça, pour faire une espèce de cure, de contrepoison un peu, ou de me dire, pour essayer, ah bon, tiens, il y avait ça aussi qui se faisait aussi, et puis voilà. Et puis au Beaux-Arts à l'époque, c'était très le modernisme était vu très tel quel et très Solers, mais pas du tout nouveau roman. Donc moi, le nouveau roman, j'ai découvert ça bien après, en fait. Donc ça, c'était important, parce que quand j'ai rencontré Tanguy Viel à Tours, Philippe Adam aussi, on a commencé à parler entre nous comme ça du nouveau roman, et que j'ai découvert ça, je me souviens que d'un seul coup, j'ai eu la sensation de trouver une voie qui pouvait permettre d'être à la fois dans une hypermodernité en assumant des désirs de fiction, que la question était de faire du roman autrement. Et alors que jusqu'à maintenant, c'était ou modernité, ou roman à l'ancienne, mais pas... voilà, c'était marche-crève, quoi.
Comment vous avez rencontré Tanguy Viel, donc autre auteur minuit, qui a publié son premier roman un an avant le vôtre?
Ouais. En fait, on était à Tours et on allait dans les mêmes, on allait dans le même bar, en fait. Et on avait une amie en commun qui me disait, non, mais il y a deux écrivains, mais ils savent pas qu'ils sont écrivains et en plus, ils se connaissent pas encore. Et donc, on s'est rencontrés. Mmh. Par le biais de Philippe Adam, que lui, je connaissais, qui était à Paris, qui a publié après chez Vertical. Donc ça s'est un petit peu fait comme ça. Tanguy lui avait fait un atelier d'écriture avec François Bon, et puis les choses se sont un petit peu faites comme ça. Les gens se rendent compte, voilà, Tours c'est pas une grande ville, tout le monde se connaissait assez.
Et voilà. Si vous avez envoyé votre premier roman chez Minuit, c'est parce que Tanguy Viel avait publié là-bas, ou de toute façon vous aviez envie de l'envoyer chez Minuit?
J'avais envie que ce soit chez Minuit, mais quand il a publié son premier roman, moi je me souviens parce qu'on était, j'étais collé au téléphone à côté de lui quand il était en train de parler avec Irène Lindon. Et c'est vrai qu'a priori, statistiquement, j'aurais dû plutôt me dire si Tanguy publie son premier roman chez Minuit, j'ai aucune chance de publier le mien, puisqu'à l'époque, il publiait très très peu de premiers romans. Et en fait, je ne l'ai pas vécu du tout comme ça. Au contraire, je me disais non, c'est super, ça veut dire qu'on se raconte peut-être pas que des conneries, quoi. Donc je l'ai plutôt vécu de manière encourageante. Puis de toute façon, moi, j'étais à un endroit de ma vie, j'avais 30 ans, j'étais au chômage, c'était vraiment la zone totale. Hein, faut quand même être clair là-dessus. J'avais été pion pendant des années. J'avais un vague objectif de passer un CAPES d'art plastique, mais dont j'avais pas envie. Et puis, il fallait que je règle ce compte avec l'écriture. Il fallait un moment que je me dise. Et je me souviens, je croisais certains profs, justement, des Beaux-Arts. Et j'avais vraiment l'impression d'avouer que je voulais écrire. Et en fait, ce qui surprenait personne, en fait, tout le monde le savait, alors que j'étais convaincu que c'était mon grand secret, quoi. Je sais pas pourquoi. Et donc, il y avait vraiment cette question. Je me suis laissé, en 97, je me suis laissé un an, dire, j'écris jusqu'à ce que je réussisse quelque chose, ou alors j'arrête, quoi. Si au bout d'un an, j'ai rien, je renonce.
Et au bout d'un an, vous avez ce premier roman, Laurent Mauvigné, c'est Loin d'eux,
ouais,
qui sera publié en 99. Et ce premier roman, il est étonnant parce qu'à la fois, il contient tout ce que vous nous avez raconté depuis la première émission et il contient tous les livres à venir, j'ai l'impression. Ou en tout cas, beaucoup de livres à venir. Il y a plein de choses, aussi bien dans votre écriture que dans les thématiques, qui sont là. C'est-à-dire, c'est un milieu très fermé. On sait qu'il y a un Luc, un personnage qui est parti. Il y a la question de suicide qui est là. Il y a plein de choses, il me semble, de votre vie qui sont cryptées. C'est une fiction totale. Il y a plusieurs personnages qui parlent plusieurs voix. Comment ça se met en place, ça, cette écriture-là? Qui est l'écriture Mauvigné encore aujourd'hui?
C'était un moment où c'était un moment où j'habitais où Tanguy Viel m'avait hébergé pendant quelques mois. Et je suis arrivé au bout de l'année que je m'étais fixé pour écrire ou pas un livre. J'avais écrit deux romans et qui étaient tous les deux très très mauvais. Et puis au mois de juin, je me suis dit ma deadline c'était septembre. Je me suis dit c'est mort. Je serai jamais écrivain. En septembre, il faut que je trouve un boulot. Donc là, c'est l'été. Je vais vivre l'été et puis en septembre, on verra. Et d'un seul coup, tout a été d'une légèreté totale. Mais presque, je serai jamais écrivain. Quel bonheur, quelle joie. Je suis enfin débarrassé de cette saloperie qui me colle au basque depuis l'enfance. Et d'un seul coup, je me suis senti totalement libéré du désir d'être écrivain. Et pour fêter ça, j'ai pris l'ordinateur. Et puis j'ai écrit, mais sans réfléchir du tout, les quatre premières pages de Loin d'eux. Dont je savais absolument pas ce qu'elles étaient, ce que c'était, pourquoi c'était là. Simplement, et c'est la première fois de ma vie où j'ai eu la sensation que quelque chose venait à moi et que justement j'étais pas en train de faire l'écrivain, quoi, j'étais juste en train d'écrire, quoi. J'étais pas, il y avait comme si quelque chose c'était, j'avais touché le fond et que ça pouvait commencer, quoi. Et je l'ai vécu comme un don, un cadeau qui m'était fait. Et après, j'ai continué à écrire le livre. Alors, c'était une période où j'étais à peu près bourré tout le temps. Voilà, c'est une période qui était très difficile. et où l'alcool était, c'était très présent. Pas toujours festif, parfois très festif, parfois pas. Mais je me levais, je rendormais, la nuit je partais, je revenais, tout ça, et j'écrivais. Et c'est un livre qui s'est écrit sur 3 mois. Comme ça, j'ai l'impression d'être en équilibre sur ce truc-là, et avec la sensation que quelque chose tenait, quoi. Et c'est un livre que j'ai écrit presque d'une traite sans le retoucher, presque sans le retoucher, en fait. Le 22, c'est un des livres que j'ai le moins retouché.
Et pourtant, on a l'impression de quelque chose de très construit.
Ouais, mais il s'est écrit comme ça, ouais. Il s'est écrit très simplement, très naturellement comme ça. Alors qu'effectivement, on a l'impression que c'est, qu'il est composé, en fait, de, mais en fait, c'est pour ça, pendant très longtemps, quand on me demandait combien de temps j'avais mis pour écrire ce livre, je disais toujours, et je le pense encore d'une certaine manière, 4 mois et 15 ans, en fait. Parce que ça a été vraiment 4 mois d'écriture comme ça, mais je pense que s'il a pu se faire aussi nettement, aussi simplement, c'est parce que je pense qu'il y a eu un temps de contraction, de maturation, de refus aussi. Parce que la chose qui a été la plus dure pour moi dans ce livre-là, c'était de comprendre que tout ce qu'on m'avait demandé de faire, à savoir fuir mon milieu, utiliser le langage pour ne pas être ouvrier, ben d'un seul coup, en commençant ce livre-là, la perspective s'est totalement inversée, et j'ai compris que pour moi, la question, ce serait que le langage sert à rejoindre ce milieu, à le retrouver, à y revenir, pas à le fuir, pas à le dominer, mais au contraire, à y revenir, et à essayer de trouver l'endroit où je suis en phase avec lui, en fait. Et donc, c'est une espèce de révolution pour moi, d'assumer ça, d'assumer que le problème que j'avais eu, c'était pas de haïr ou de refuser un milieu, c'était d'accepter de l'aimer, en fait. Il s'est passé quelque chose avec moins deux sur ça, qui a été pour moi un émerveillement, en fait. Une façon, d'un seul coup, tout prend sa place, quoi.
Ben, c'est surtout qu'on a l'impression, avec Loin 2 et avec les autres livres qui vont suivre, que, à ce moment-là, l'écriture, c'est un moyen de l'explorer, ce milieu, et d'explorer les silences. C'est un truc qui est presque paradoxal. On a l'impression, à partir de ce moment-là, que chez vous, l'écriture, c'est une façon d'aller chercher le silence ou ce qui est derrière les non-dits.
Oui. Oui, mais justement, c'est d'un seul coup accepter que, parce que, quand on nous explique, quand on est enfant et ado, qu'il faut être bon à l'école, qu'il faut maîtriser le français, etc., l'implicite, c'est que c'est toujours du plus, que ça sert à que le pouvoir du langage, ça sert à savoir. Et que le savoir, ça sert à asseoir son pouvoir. Et en fait, moi, ce que je comprends avec Loin 2, c'est que les lacunes, ce qu'on ne sait pas, sont aussi des lieux de force. Ce sont pas des faiblesses. Ce sont des fragilités, mais ce sont pas des faiblesses. Et que les fragilités, il faut les accueillir. Et que ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on ne sait pas dire, les silences, tous ces manques, tout ce qui va pas, en fait, il faut juste se décaler un tout petit peu pour voir que, bah, que le vide, c'est pas le néant, qu'il y a quelque chose à dessiner avec ça. Et qu'il faut l'accueillir. Et que c'est des formes riches, c'est des choses très riches. Et alors moi, ça a été une espèce de révélation de voir qu'en fait, dans tout ça, il y a une richesse immense qui va à l'encontre totalement de ce qu'on m'avait presque demandé de faire, ce à quoi on est assigné tous les jours, qui est de dire. C'est pour ça, quand on me parle souvent de dire l'écrivain, c'est celui qui cherche le mot juste. Moi, je ne crois pas du tout ça, par exemple. Je crois que l'écrivain, c'est celui qui cherche autour de l'absence des mots, en fait, qui cherche le mot juste. Non, un journaliste cherche le mot juste, un commissaire de police cherche le mot juste. La précision des écrivains, elle n'est pas, pour moi, de la même nature. Elle cherche une précision, elle cherche une justesse, mais elle contourne les choses, elle cherche autour. Elle mène une enquête, mais par exemple autour d'un mot, Mais c'est pas le mot qu'elle va. Le mot, il est trop aveuglant, il est trop puissant. On a besoin de tourner autour de la nuance, quoi.
Mais Laurent Mauvignier, quand même, dès ce premier roman, il me semble qu'il y a quelque chose qui est en place. C'est la densité et l'intensité dans Loin d'eux. La densité de l'écriture, parce que je crois qu'il n'y a quasiment pas de paragraphe. La page, elle est complètement saturée. Et l'intensité de la phrase, enfin, je ne sais pas si le mot est juste. Comment vous diriez-vous ?
Je ne sais pas comment je le dirais, mais en fait, ce que je sais, c'est quand j'écris, en fait, j'éprouve toujours la même sensation de ne pas être capable de dire ce que j'ai à dire. J'ai un besoin de me répéter avec plein de petites variations, plein de comme ça, parce que j'ai toujours l'impression que c'est pas assez nourri ou précis. Je suis toujours admiratif des gens qui arrivent à faire des phrases très courtes et sèches, parce que je me dis qu'il faut une confiance en soi incroyable, quoi, comme si ça pouvait tenir, quoi, tout seul comme ça. Et moi, j'ai toujours l'impression que ça tient pas, donc il faut, je cours après, en fait. J'ai l'impression de courir toujours après, donc c'est vrai que ça crée un effet de je sais pas si c'est de densité, mais sans doute ça produit une densité, mais enfin qui est pas mon objectif premier. Mon objectif, c'est d'arriver à, j'ai l'impression presque de tourner autour d'un objet dont je sais pas trop ce qu'il est, et d'essayer de le vraiment de l'encercler, en fait, quoi.
Voilà, elle est née comme ça, la phrase de Mauvignier. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous me dites « je cours après ». Il y a quelque chose avec le souffle dans votre phrase. Vous avez une façon de travailler la ponctuation qui est très particulière. Il y a peu de ponctuation.
Il y a peu de points. Ouais. Mais en réalité, c'est, par exemple, si je prends un texte comme ce que j'appelle « Oubli », où là, il n'y a pas de points, j'ai passé, j'allais dire, 15 jours, 20 jours peut-être à écrire le texte, mais 3 mois uniquement sur les virgules. Donc voilà, c'est vraiment la ponctuation au sens du comment on tresse à l'intérieur d'une phrase des relances. Et effectivement, c'est une question de souffle, c'est une question de presque de parfois course de vitesse et puis parfois course de fond. Mais de vraiment de travailler un rapport à un phrasé qui est très j'allais dire, c'est pas musical au sens mélodique, c'est musical au sens de presque percussif ou de percussion, quoi. Donc de ce point de vue-là, la ponctuation, elle est pour moi hyper structurante dans la phrase, quoi.
On va entrer un petit peu dans votre écriture, Laurent Mauvignier, dans le prochain épisode où on va regarder les différents cycles de vos romans. Merci pour cette rencontre, Laurent Mauvignier, et à demain.
Merci.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Fabien Gosset, réalisation Marie-Laure Ciboulet, une série de Sylvie Tanette, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.